explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainé, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
Parmi les sept merveilles du monde, elle est la seule encore debout. La pyramide de Khéops attire les regards et attise les curiosités depuis 45 siècles. Des générations d'explorateurs et d'égyptologues ont tenté d'en percer les mystères. Mais voilà qu'il y a quelques mois, une équipe internationale de scientifiques a annoncé dans la prestigieuse revue Nature avoir fait une découverte majeure à son sujet. Une immense cavité de la taille d'un avion de ligne de 200 places située juste au-dessus de la Grande Galerie. De quoi réveiller tous les fantasmes au sujet de l'édifice royal dans lequel aucune momie ni aucun tombeau funéraire n'a jamais été retrouvé. Baptisée Scan Pyramids, la mission qui a réalisé cette découverte a fait appel à une technique nouvelle utilisant des rayons cosmiques. Comment s'est déroulée cette expédition dont les résultats ont dépassé les espérances des scientifiques ? C'est ce que nous allons voir pour sa première de l'été. Le temps d'un bivouac vous emmène au cœur de la pyramide de Khéops avec deux des principaux membres de la mission Scan Pyramids.
Sur France Inter.
Nous avions parlé d'une expédition aux pyramides. Vous en êtes toujours ?
Des trucs pointus, là.
Un philosophe a dit un jour : le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas.
Daniel Fievé.
Le sort de toute l'Égypte est entre tes mains.
Le temps d'un bivouac.
Ah, ils seront fous, ces Égyptiens.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Je suis très heureux de repartir à l'aventure avec vous pour un nouvel été placé sous le signe du voyage et de la découverte. Aujourd'hui, en première heure, nous partons donc en Égypte sonder les pyramides avec Mehdi Tayoubi et Sébastien Procureur. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Mehdi Tayoubi, vous êtes co-directeur de la mission scientifique Scan Pyramids, président de l'Institut HIP et vice-président stratégie et innovation chez Dassault Systèmes. Sébastien Procureur, responsable scientifique à l'IRFU, au CEA. Vous avez mis au point l'un des détecteurs qui a permis de voir à travers la pyramide de Khéops. Nous sommes impatients d'entendre le récit de cette aventure qui n'est pas terminée d'ailleurs. Cette première découverte pourrait en annoncer d'autres encore plus importantes. Vous revenez tout juste d'Égypte d'ailleurs. Nous sommes en direct et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. En deuxième heure, nous prendrons le large avec un skipper qui a le vent en poupe, François Gabart. Voilà pour le sommaire de ce premier bivouac de l'été. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux.
Maintenant, il me reste une ambition. Je veux bâtir un tombeau pour recevoir ce trésor et mon corps. Un tombeau que personne ne songera à violer, ou enfin, je reposerai en paix, ou je profiterai de ma seconde vie. As-tu reçu mes instructions ?
Oui, monseigneur. Et depuis que nous les avons reçues, les architectes travaillent d'arrache-pied. Leurs plans n'attendent plus que ton accord.
Leurs travaux nous donnent-ils satisfaction ?
C'est ton trésor, seigneur, et ton tombeau. Tu peux seul en juger.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Un labyrinthe, hein, pour cacher le chemin du tombeau.
L'entrée est par ici, monseigneur. Et là, c'est le labyrinthe qui mène au secret. Nous avons imaginé un tombeau inaccessible...
Comme le dernier tombeau où un tel labyrinthe a été utilisé. Mon ancêtre Serati était protégé par le même genre de labyrinthe. Tu sais de quoi il a été victime, et ceci ?
C'est tout différent, monseigneur. Ça commence ici.
C'est différent, quoi. J'ai ramené un trésor immense en Égypte, et ce trésor a été pris dans un tombeau dont la crypte avait été scellée 3 jours auparavant. Oh, regarde ce qu'on nous offre ici, Emar. Je crois retrouver une ancienne connaissance, un faux tunnel et une fausse crypte pour dissimuler les vrais. Ça n'empêcherait même pas le vent d'entrer. Sont-ils tous comme ça ? Quelle raison voyez-vous de bâtir une pyramide pour abriter une tombe, si cette tombe doit être violée un jour ? Il vaudrait mieux déposer ce trésor sur le sable. De cette façon, au moins, les voleurs ne dérangeraient pas mon corps. Allez-vous-en tous. Disparaissez et estimez-vous très heureux d'échapper au fouet ou au cachot que vous auriez mérité. Allez-vous-en tous!
Extrait du film La Terre des Pharaons, imaginant Khéops s'agaçant devant les plans qu'on lui propose pour construire sa grande pyramide. Mehdi Tayoubi, on prête à Khéops un goût pour la magie et un intérêt tout particulier pour ses chambres secrètes. C'est une légende ou elle est étayée par certains faits historiques?
Alors, beaucoup de légendes en fait concernant Khéops
proviennent en fait d'écrits et de papyri en fait qui sont postérieurs et très largement postérieurs en fait au règne de Khéops. En fait, on a très très peu d'écrits de l'ancien empire. Ouais. De Khéops, il ne reste pas grand-chose si ce n'est une minuscule statue qui est exposée aujourd'hui au musée du Caire.
Ouais, et c'est les premiers... on a cette immense pyramide. Absolument. On ne voit qu'elle en Égypte sur le plateau de Gizeh, et on a cette toute petite statuette, et puis on n'a rien d'autre de
Khéops. Aucune inscription sur cette pyramide, contrairement au mastaba en fait des dignitaires, les tombes des dignitaires autour des pyramides sur le plateau de Gizeh. Et les premiers en fait papyri qui parlent de Khéops et qui sont contemporains de Khéops ont été trouvés en 2013 par l'égyptologue Pierre Tallet, et c'est le premier document qui enfin mentionne en fait le chantier de la pyramide de Khéops. Ouais. Donc beaucoup de légendes effectivement concernant Khéops en fait sont relatives à peu de documents en fait.
Alors, quand même ce papyrus de Westcar hein, qu'on trouve dans le musée de Berlin, alors il est effectivement postérieur. Il a 1000 ans de plus que l'époque de Khéops. Mais quand même, dans ce texte, on dit que Khéops s'est beaucoup renseigné sur la construction des pyramides, sur la façon d'organiser des chambres secrètes, des tombeaux inviolables. Donc forcément, ça attise un petit peu tous les fantasmes.
Ça attise les fantasmes, d'autant plus qu'Al-Mamoun, donc le calife qui au 8e siècle en fait pénètre dans la pyramide pour la première fois à la recherche du trésor de Khéops, ne trouve rien. Donc ça a continué depuis le Moyen-Âge à alimenter la machine à fantasmes jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
Et... Alors Al-Mamoun, dont vous venez de citer le nom, on est en 832. Qui est-il, Al-Mamoun, et qu'entreprend-il exactement?
Donc Al-Mamoun est calife en fait. Il est mécène en fait, une sorte de mécène à son époque, extrêmement féru de science, et il décide de monter une expédition pour percer la pyramide de Khéops. Il sait en fait, ses équipes savent qu'en général les Égyptiens, les anciens Égyptiens ménageaient en fait un couloir d'accès sur la face nord, plutôt vers le centre de la face nord, et donc il décide de percer un tunnel pendant des mois et des mois en utilisant du feu, du vinaigre pour pénétrer au cœur de la pyramide.
Parce que c'est une sorte de roche calcaire.
C'est du calcaire, absolument. C'est calcaire qui va s'effriter avec le feu et qu'on va ramollir en fait aussi avec du vinaigre. Il s'enfonce, sauf que a priori l'architecte de Khéops fait une petite farce, c'est qu'il décentre légèrement sur l'est en fait l'ensemble des descendries. Ce qui fait qu'il s'enfonce en fait tout droit, et puis au bout d'un moment, sans doute à cause de l'acoustique, il bifurque légèrement, et puis là il finit par trouver le couloir ascendant, la grande galerie, la chambre de la reine et toutes les chambres que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Les seules découvertes en fait de chambres qui ont été faites depuis Al-Mamoun, ce sont ce qu'on appelle les chambres de décharge, qui sont des petits espaces ménagés au-dessus de la chambre du roi. Et finalement la pyramide est connue telle qu'on la voit aujourd'hui depuis le Moyen-Âge et depuis Al-Mamoun.
Depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis 832, on n'avait pas découvert de nouvelles pièces importantes dans cette pyramide. D'où l'importance de cette découverte que vous avez réalisée avec cette mission Scan Pyramide. Vous avez commencé à donner quelques éléments. Qu'est-ce qu'on sait justement de ces pièces que l'on trouve aujourd'hui, qui sont bien connues à l'intérieur de la pyramide de Khéops? Alors il y a la chambre de la reine.
Donc on a une chambre souterraine.
Ouais.
On a d'abord une chambre souterraine donc qui est sous la pyramide de Khéops, sous le plateau en fait. Ensuite on a un couloir descendant qui rejoint en fait ensuite un couloir ascendant. Ce couloir ascendant mène en fait vers ce qu'on surnomme un peu la cathédrale monumentale au cœur de la pyramide, qui est cette grande galerie qui mesure 47 mètres de long, 8 mètres de haut, donc qui constitue un volume de vide d'à peu près 600 mètres cubes. Au bas de cette grande galerie, on a un couloir horizontal qui mène vers la chambre dite de la reine. A priori, il n'y avait pas de reine inhumée dans cette chambre. Donc avec des plafonds, en fait un plafond en chevron. Pour la première fois, les Égyptiens, dans l'histoire de l'architecture des pyramides, utilise les chevrons en fait pour recouvrir un vide et protéger en fait la pièce de l'effondrement par rapport à la masse qui se trouve au-dessus. Et si on va en haut de la grande galerie, on accède à la chambre du roi, qui a elle la particularité d'avoir un plafond plat, et elle est faite en granit d'Assouan.
Toutes ces pièces ont été découvertes vides. Est-ce que ça veut dire qu'elles l'ont toujours été, ou est-ce que ça veut dire qu'elles avaient été pillées auparavant dans une histoire qui nous échappe, qu'on ne connaît pas?
Alors, je ne suis pas égyptologue, mais a priori, Al-Mamoun serait le premier à avoir pénétré dans la pyramide de Khéops. Donc, il est fort probable. Soit il a trouvé quelque chose et on ne le sait pas. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce soit réellement Al-Mamoun qui ait percé en fait la pyramide et créé ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel d'Al-Mamoun. Donc, en fait, on ne sait pas. Ouais.
Donc, à ce jour, en tout cas, aucune trace de la moindre momie, du moindre sarcophage ou du moindre trésor dans cet immense tombeau de cette pyramide qui reste la plus grande d'Égypte.
Absolument, aucune trace. Une seule inscription, en fait, qui se trouve sous les chevrons de la chambre du roi, où on a le cartouche de Khéops. C'est la seule inscription qu'il y ait dans cette pyramide.
Alors, il y a eu des tentatives. Dans les années 90, on a envoyé des petits robots, même avec diffusion en direct à la télé égyptienne.
En 2000.
Voilà, c'était en 2000. Des millions de téléspectateurs qui attendaient de voir ce que le robot allait voir dans ces petits couloirs d'aération de la pyramide. On n'a rien vu.
Oui, alors je ne sais pas pourquoi le docteur Zayawas, en fait, qui était le secrétaire général en charge des antiquités égyptiennes, pourquoi il est persuadé, en fait, qu'au bout du conduit dit de ventilation de la chambre de la reine se trouverait, en fait, une chambre secrète. Donc, effectivement, en 2000, il lance une première expédition avec un robot qui fait un trou. On ne trouve rien. Et en 2010, un second robot, et d'ailleurs, on avait participé à cette mission, en fait, passe par le trou que fait le premier robot. On découvre des inscriptions sans doute de maçons de l'époque. Et puis la mission s'arrête à l'époque parce que la révolution égyptienne, pour des raisons politiques, la mission s'arrête. Elle n'est jamais relancée. Mais quand j'ai posé la question au docteur Zayawas, pourquoi il pense qu'il y a une chambre, sur quelle théorie architecturale il s'appuie en fait pour imaginer cela, je ne sais pas.
On le retrouvera, le docteur Zayawas, dans cette émission, parce que c'est un personnage important et incontournable en Égypte. Qu'est-ce qui vous a donné le sentiment à vous que vous pouviez réussir là où des générations d'égyptologues avaient échoué et que vous aviez peut-être trouvé la technique qui permettait de sonder différemment la pyramide?
Quand on s'est lancé dans la mission, l'objectif n'était pas forcément de trouver. On se disait que 30 ans après la mission financée par la fondation EDF en 1986 de microgravimétrie, qui est une des techniques d'exploration non invasive qui consiste en fait à mesurer des écarts de gravité pour détecter la présence de vide, on a fait le constat avec le professeur Agnella de l'université du Caire que les techniques et les technologies avaient grandement évolué. On savait aussi que dans les années 65-67, le professeur Alvarez avait déjà tenté d'utiliser la myographie pour les pyramides, la puissance de calcul a augmenté, les détecteurs ont fait énormément de progrès, Sébastien en parlera sans doute tout à l'heure, mais les détecteurs du CEA datent des années 90 quand Charpak les invente. Donc voilà, beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de techniques en simulation, puissance de calcul, donc on s'était dit que c'était le moment de tester, d'essayer.
Sébastien Procureur, Sébastien dont vous parliez, il est aussi autour de cette table, c'est un physicien des particules qui a mis au point des détecteurs pour capter des murs. On dira un peu plus tard dans cette émission de quoi il s'agit. Si on vous aviez dit, Sébastien Procureur, que vous, physicien des particules, un jour, vous partiriez à élucider sur le terrain, en Égypte, les mystères des pyramides et plus particulièrement de la pyramide de Khéops, vous auriez eu du mal à le croire, non ?
Oui, parce que au jour le jour, on travaille pas vraiment, sur des sujets comme cela. Effectivement, moi, je suis physicien des hautes énergies. Donc, oui, on développe des détecteurs en principe pour des accélérateurs de particules, pour des expériences au CERN aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de fabriquer des détecteurs dont on a compris assez vite qu'ils pouvaient avoir un intérêt au-delà de la physique des particules. Et on avait d'ailleurs construit un télescope à muons en 2015, au moment où Mehdi et le professeur Ella le montaient leur mission. On avait des ambitions plus modestes, en fait. On a commencé par sonder le château d'eau du centre de Saclay pour vérifier que le télescope fonctionnait bien. Et non, moi, j'avais aucune idée qu'on ferait ça quelques mois plus tard, qu'on s'installerait en Égypte.
Ouais, et puis vous vous êtes retrouvé même à escalader cette pyramide. On va découvrir tout ça. La devise des chercheurs de Scan Pyramide, ce n'est pas parce qu'un mystère est vieux de 4500 ans qu'on ne peut pas tenter de le résoudre. Et nous allons voir dans la suite de cette émission que leur audace a payé. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Très heureux de repartir à l'aventure avec vous.
Tout tourne autour de la même chose. Et si l'on connaissait la cause, ça ne changerait pas. Si tu pouvais encore te cacher sur quelques centimètres carrés, ce ce serait là. Mon petit garçon qui n'a pas trouvé de maison, sois sage. On ne fait pas de plus beau voyage. Toi, tu tournes autour de ma maison, et c'est toujours la même chanson. Ça ne change pas. Toi, tu voulais tant y retourner, trouver quelqu'un à embrasser. Ce sera moi. Mon petit garçon qui n'a pas trouvé de maison, sois sage. On ne peut pas tourner la page ni changer de paysage. Toi, tu voulais tant y retourner, trouver quelqu'un à embrasser. Ce sera moi. Ce sera moi. Ce sera moi. Ce sera moi.
L'origine du monde, c'était Françoise Breut, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Le soleil va arriver sur le haut de la pyramide et va descendre. Et donc, on a programmé le système pour travailler pendant à peu près 2 heures à enregistrer une image toutes les minutes. On commence par Khéops. Alors, recording. On bouge pas, j'enregistre. Acquisition. Là, j'étais sur Khéphren. Là, je fais travelling comparatif Khéops-Khéphren.
Là, il y a quelque chose.
On monte. Tout est vraiment extraordinaire à l'horizontale des chevrons et sur le côté droit. Là, on a de l'air froid qui sort. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a des variations de 6, 8, voire 10 degrés, alors qu'on est sur une température un peu homogène, là, actuellement, de 24 degrés. Donc, il y a des zones bleues très froides. On le voit déjà du bas, de tout en bas. Mais là, étant à 15 mètres, on le voit d'une façon beaucoup plus significative encore.
Extrait du documentaire Khéops, mystérieuse découverte diffusée sur France 5 en novembre dernier. On entendait le scientifique Jean-Claude Barré et ses collègues de l'université de Laval au Québec, experts en thermographie. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, Mehdi Ayoubi?
Alors, le principe de la mission Scan Pyramides est de mêler différentes techniques, l'on dit non destructives, non invasives. La thermographie nous a servi, en fait, dans la première phase de la mission.
Ouais.
Puisqu'en fait, Scan Pyramides ne concerne pas uniquement la pyramide de Khéops, mais les 4 pyramides de l'ancien empire. Et donc, il nous fallait, en fait, identifier des zones d'intérêt sur 4 faces multipliées par 4 pyramides. D'où la nécessité, au début, d'utiliser, en fait, les techniques infrarouges pour déceler des écarts de température qui pouvaient paraître étranges en disant, tiens, ici, on a une zone intéressante. À quoi peut être dû en fait cet écart de température, et à ce que cette zone peut être investiguée plus en avant grâce ensuite à la technique de la myographie, puisque bien entendu, comme dans tout projet, les budgets ne sont pas illimités, le matériel n'est pas illimité, donc il fallait faire des choix stratégiques par rapport au positionnement en fait des appareils à muons qui eux ensuite permettent de prouver la présence d'un vide.
C'est ça. Donc là, c'était pour aiguiller, savoir où
exactement
placer les détecteurs à muons. Alors il est temps
entre autres, c'est-à-dire faire la cartographie infrarouge de l'ensemble des faces et puis ensuite affiner la stratégie de positionnement des détecteurs.
Alors, il est temps de savoir d'un peu plus près ce que sont ces fameux muons dont vous vous êtes servi pour scanner, hein, pour radiographier en quelque sorte cette pyramide. Alors là, Sébastien Procureur, vous faites partie de l'une des équipes, parce que 3 équipes ont travaillé séparément à essayer de scanner la pyramide. Qu'est-ce que c'est qu'un muon ?
Eh bien, bonne question. Donc, le muon, c'est une particule élémentaire. En tout cas, on le considère comme élémentaire à l'heure actuelle. En fait, les gens ont tendance à dire que c'est un électron lourd, parce que l'électron est peut-être plus familier aux gens. En fait, il a la même propriété que l'électron, simplement, il est plus lourd, plus massif. Il fait à peu près 200 fois la masse de l'électron. Et c'est une particule, en fait, qui est produite dans la haute atmosphère par ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Donc, c'est d'autres particules qui arrivent d'un peu partout dans l'univers et qui, en arrivant dans la haute atmosphère, vont créer des cascades de réactions, produire ces fameux muons, entre autres. Mais ces muons ont des propriétés très intéressantes, c'est-à-dire qu'ils sont à très haute énergie et ils sont capables de pénétrer des quantités de matière assez grandes. Donc, c'est essentiellement les seuls qui arrivent au sol. Et on peut les utiliser pour sonder la matière en profondeur.
Donc on se retrouve avec ces muons qui bombardent en grande quantité notre planète en permanence. Nous, on n'en est pas vraiment affecté. Hein. On est traversé par ces muons, ça nous fait ni chaud ni froid. Oui. Mais quand un muon rencontre la Grande Pyramide, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, quand un muon rencontre la Grande Pyramide ou toute autre matière, ça peut être le corps humain ou autre chose, il va interagir un petit peu, parce que c'est une particule chargée, donc c'est l'interaction électromagnétique, et donc il va perdre de l'énergie. C'est un petit peu comme un coureur qui s'essouffle au fur et à mesure, qui perd de l'énergie. Et ben, comme quand un coureur est trop fatigué, le muon va s'arrêter, en fait, il va être absorbé par la matière. Et en fait, le taux d'absorption des muons dépend de la quantité de matière en question. Mmh. Donc en mesurant le flux de muons, on a une idée de la quantité de matière qu'il y a au-dessus de nos têtes.
Et là, on commence à comprendre. C'est-à-dire que s'il y a des cavités cachées dans cette pyramide, les muons vont plus passer. Donc on va voir des sortes de zones plus riches en muons aux endroits où éventuellement il y a des cavités secrète dans la pyramide de Khéops. C'est le principe. Hein. Évidemment, il fallait encore le mettre au point. Alors, ça n'a pas servi avant. Cette technologie, elle existait déjà. Ça n'a pas servi uniquement à cartographier ou à scanner des pyramides. On s'en était servi, je crois, lors d'accidents de centrales nucléaires, hein, à Fukushima.
Oui, Fukushima, ça a servi récemment, en 2011. Des équipes japonaises, d'ailleurs, qui ont essayé de déterminer où était passé le combustible nucléaire. Mais ça a servi même avant cela. Alors, en fait, l'une des grandes applications des muons, c'est autour de la volcanologie. Mmh. On a des collègues, notamment au CNRS, mais ailleurs aussi en Italie, un peu partout, qui étudient la dynamique des volcans, les volcans actifs, pour essayer de peut-être un jour de prédire des éruptions. On n'en est pas encore là, mais en tout cas de mieux comprendre les volcans qui sont par nature relativement inaccessibles puisqu'extrêmement massifs.
Alors avant de pouvoir utiliser cette technologie, il a fallu convaincre, et notamment on en parlait, Zahi Hawass, un égyptologue qui a beaucoup de pouvoir en Égypte. Il est secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes et il s'est montré sceptique au début, en tout cas quand vous lui avez présenté votre approche. Extrait d'un échange entre lui et vous, Sébastien Procureur.
Et comment je peux être sûr que ce genre de choses peut être exact ?
On peut dire, ok, ici il y a une cavité parce qu'il y a plus de muons. Et là, il n'y a pas de cavité puisque nous avons moins de muons.
D'un point de vue scientifique, on est sûr à 99,9% de la validité de cette technique, qu'elle nous dévoilera tout. Mais bien sûr,
Écoute, ça fait 45 ans que je travaille comme archéologue. La technologie ne m'a jamais rien prouvé de convaincant. Mais on a vraiment besoin d'informations très précises cette fois.
Okay.
Sinon, vous allez clore définitivement le chapitre de la science et de l'archéologie. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de technique. J'espère que je vais me tromper et qu'ils vont me montrer quelque chose de précis. Car tout ce qui a été fait scientifiquement dans les pyramides depuis 100 ans, c'est du vent. Parce qu'on sait très bien que dans la Grande Pyramide, il y a des cavités. Je pense vraiment qu'il y a encore des chambres cachées à l'intérieur. J'espère vraiment me tromper et que ces techniques nous apporteront des éléments précis. Merci.
C'était Zahi Hawass, ex-secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Un extrait du doc Khéops, mystérieuse découverte. C'est ce qui s'appelle mettre la pression quand même lorsqu'il vous dit « si vous n'y arrivez pas, en gros, on arrête tout et pour longtemps, Mehdi ».
Oui, ça, effectivement, ça veut dire ça a pas mal challengé l'équipe. Ce qu'on regrette, c'est qu'avec le docteur Zahi Hawass, on n'ait jamais eu réellement de débat scientifique. Quand à l'époque, en fait, où il étudie les momies, il n'a aucun souci à collaborer avec des médecins pour passer dans une technologie qu'on appelle le scanner. Mmh. Et donc, on a eu beau essayer de lui expliquer que c'était finalement un scanner, mais qu'on adaptait pour des monuments massifs. Voilà, donc on est là dans un passage un petit peu de mauvaise foi.
Ouais.
On lui a prouvé qu'il a tort. Il a fini aussi par dire voilà que cette découverte n'apportait rien. Voilà, j'ai envie de dire c'est un détail.
C'est un détail, mais qui reste intéressant parce que ça montre. Alors c'est une équipe internationale. On le voyait, des Canadiens, des Français, des Japonais. Mais vous arrivez sur le sol égyptien et peut-être que des égyptologues égyptiens n'ont pas envie qu'on vienne marcher sur leur plate-bande, qu'on vienne jouer sur leur terrain de jeu. Donc il faut faire preuve de diplomatie.
Mais c'est avant tout un projet égyptien. C'est-à-dire que le docteur Zayawas nous a attaqué en disant que c'est un projet étranger. Non, c'est un projet qui a été mené avec le professeur Agnellal, qui dirige la mission, qui représente l'université du Caire. La particularité de cette mission, mais ça c'était un parti pris au moment de sa conception, c'est qu'on ne souhaitait pas, au début, intégrer d'égyptologues. Non pas qu'on ait quelque chose contre les égyptologues, mais on souhaitait essayer d'avoir un regard neuf, apporter une nouvelle perspective, essayer d'interroger ce monument de manière différente. Quand je rencontre Sébastien, en fait, il ne sait même pas qu'il y a des mystères et qu'il y a toutes ces polémiques autour du monument. Et donc voilà, on a voulu partir avec cette fraîcheur, et voilà, en montant une équipe de candides par rapport aux problématiques des égyptologues, donc, mais des spécialistes de leur domaine.
S'il y a une querelle de chapelle, c'est plus entre disciplines qu'entre pays, finalement. C'est le fait que des physiciens débarquent chez les égyptologues.
J'ai collaboré avec d'autres égyptologues. Je pense qu'aujourd'hui, le problème des pyramides, c'est que le docteur Zayawas pense que c'est son précaré. Ouais. Tous les gens qui ont vu des documentaires en fait sur les pyramides depuis 20 ans, tout le monde reconnaît Zayawas à son chapeau d'Indiana Jones, etc. Donc effectivement, je pense qu'on est allé sur le précaré du docteur Awas. Je pense qu'au début, il a fait effectivement part de ses scepticismes. On a essayé de collaborer avec lui. En septembre, on lui avait présenté les résultats en avant-première. Il s'était jugé incompétent avec l'autre comité pour juger de résultats en physique des particules, et c'est ce qui nous a ensuite décidé à se dire on va pas se faire juger par des égyptologues qui ne maîtrisent pas la physique des hautes énergies. Mmh. On va publier dans Nature et puis voilà, on passe à autre chose.
Oui, alors on reste sur l'expédition, hein, on va sortir un peu de ces arcanes et de ces guerres finalement d'influence. Les premiers tests ont été faits sur la pyramide rhomboïdale. C'est une équipe japonaise, hein, je crois, Sébastien Procureur. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à démontrer sur cette autre pyramide qui a une forme un peu bizarre, rhomboïdale?
Oui, elle a une double pente, effectivement. Donc, c'était la première expérience de myographie de la mission Scan Pyramids. D'ailleurs, nous, à l'époque, au CEA, on n'était pas encore dans cette mission. En fait, c'était un test de validation auprès des autorités égyptiennes pour démontrer que la technique fonctionnait. C'est-à-dire qu'on était capable de visualiser des cavités connues. Et donc, dans cette pyramide rhomboïdale, en fait, il y a deux chambres, une chambre basse, une chambre haute. Et le test était très simple. En fait, ils sont mis dans la chambre basse, dans l'objectif de visualiser la chambre haute. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la technique de la myographie ne permet de voir que ce qui est au-dessus. Alors, ça peut aller jusqu'à l'horizon, mais en tout cas, on ne peut pas voir ce qui est en dessous. Donc là, le schéma était assez simple, se mettre dans la chambre basse, détecter la chambre haute. Ils ont fait l'expérience, ça a très bien marché, ils ont très bien vu la chambre haute, et ils ont, semble-t-il, rien vu d'autre d'ailleurs. Mmh. Mais ça a validé la technique.
Oui. Donc là, la chambre qui était connue, on la voit grâce au muon. Le feu vert est donné, alors évidemment, à chaque fois, il faut faire preuve, faut discuter avec les autorités égyptiennes, mais le feu vert est donné pour essayer cette technique sur les pyramides qu'on trouve sur le plateau de Gizeh, et notamment la pyramide de Khéops. Alors comment ça se passe? Comment s'organise? Là, trois équipes de scientifiques vont travailler en parallèle, dont la vôtre, Sébastien Procureur.
Oui, alors historiquement, il n'y en avait que deux dans la mission Scan Pyramids. Il y avait les deux équipes japonaises, donc de Nagoya et du KEK. Nous, on est arrivés après, en fait, quand on a vu l'annonce dans la presse, j'avais contacté Mehdi Tayoubi. Et donc les Japonais avaient déjà pas mal d'avance et ils s'étaient déjà organisés en fait pour s'installer à l'intérieur de la pyramide, notamment dans la chambre de la reine et dans le couloir descendant. Donc nous on est arrivés après, on a discuté un peu avec Mehdi et le professeur Elal. Et on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de sonder des zones un peu complémentaires, de ne pas se mettre aussi à l'intérieur parce que ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. Et donc, on a fabriqué des télescopes dont l'objectif était de résister aux conditions extérieures, ce qui n'était pas facile, pour sonder les zones un petit peu périphériques. C'est-à-dire que les Japonais sondaient le cœur de la pyramide et nous, typiquement, on sondait les arêtes. Ouais.
Alors, vous avez été amené à escalader cette pyramide avec des harnais. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte un petit peu de la taille de l'édifice et de l'énergie qu'il a fallu pour le construire. Il ne faut pas avoir le vertige aussi. Dans la vie d'un physicien, d'un chercheur ou d'un homme, tout simplement, ça doit être une expérience incroyable.
Ah, c'est un moment vraiment unique, oui, parce que bon, déjà, il y a une vue extraordinaire. Bon, on a fait ça avec Mehdi et avec d'autres personnes. On est monté à un peu plus de 100 mètres de hauteur. Et en plus, les blocs au début sont très très gros, donc c'est comme un escalier géant en fait. Et c'est vrai qu'à partir de 100 mètres, on se rend compte que vraiment vraiment c'est très haut. Donc on est content d'avoir des harnais.
C'est la descente qui est la plus difficile, Mehdi Tayoubi.
On monte assez facilement, mais la descente est assez rude parce que la pente est quand même assez abrupte. Ouais. Alors voilà, on était quand même accompagné d'une équipe de spécialistes. Il fallait assurer tout le monde. Ouais. Mais quand je pense moi à tous ces voyageurs au 19e siècle qui avaient l'habitude comme ça d'escalader la pyramide, on trouve des vieilles photos en fait. où on voit des dames en talons tout en haut de la pyramide en train de prendre leur petit déjeuner. Je me demande comment elles faisaient pour redescendre.
C'est vrai que vous aviez pas les talons quand vous l'avez
fait. On n'avait pas les talons, on avait les harnais, etc. Voilà, c'était un peu moins audacieux qu'au siècle dernier.
Oui. Alors, qu'ont donné ces investigations? Donc, on l'a compris, hein, depuis l'intérieur des détecteurs, vos télescopes spéciaux développés par le CEA depuis l'extérieur. Que donnent les premiers résultats?
Les premiers résultats, en fait, l'annonce du scan Pyramids Big Void dans Nature, en fait, est la troisième découverte de la mission. En octobre 2016, on avait annoncé, en fait, justement, grâce au télescope du CEA, la présence, en fait, d'une cavité similaire à celle qu'on visite quand on fait cette escalade à 83 mètres. Donc on a une petite grotte qui existe et qui est connue à 83 mètres. Et d'ailleurs, dans des écrits de voyageurs, on sait que les gens, quand ils escaladaient, s'arrêtaient dans cette grotte pour se rafraîchir. Et donc Sébastien et ses équipes ont trouvé une autre cavité sur la même arête, nord-est, mais à peu près à 110 mètres de hauteur. Et c'est pour ça qu'on escalade, c'est aussi pour repérer en fait cette zone-là. Deuxième découverte grâce à l'université de Nagoya, depuis le couloir descendant, au-dessus, puisqu'avec les équipes d'infrarouges, des équipes infrarouges, on avait détecté des anomalies thermiques au niveau des chevrons. Et donc, on a cherché à analyser la zone derrière les chevrons. Et donc, des émulsions à muons étaient placées dans le couloir descendant. Donc
ça, c'est capteurs, hein, en quelque sorte, des sortes de films photographiques.
Qui font, en fait, c'est ça, de la radiographie pénétrante. Ouais. C'est exactement comme la radiographie à rayon X, mais là, on utilise les muons. Et donc là, on a trouvé un début de couloir. Le scan Pyramids North Face Corridor, qui part de cette zone des chevrons. On a su, après d'autres mesures, en fait, que ce couloir, on le voit sur 5 mètres, il doit s'enfoncer sans doute plus loin. On a déterminé sa position. Et puis ensuite, la force, j'ai envie de dire, de la troisième découverte, c'est que les trois équipes, avec leurs trois méthodes différentes, ont validé la présence de ce Big Void au-dessus de la Grande Galerie.
Du grand vide, donc, vous allez faire cette grande découverte et vous allez nous raconter cette histoire dans un instant, nous expliquer comment vous avez découvert ce grand vide à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Oasis, oh, Oasis dans le temps d'un bivouac, c'était Natacha Atlas sur France Inter.
L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
Le temps d'un bivouac en compagnie de Mehdi Tayoubi, co-directeur de la mission Scan Pyramide, et de Sébastien Procureur, chercheur, physicien au CEA. Tous deux donc ont contribué à faire cette formidable découverte de cette cavité. Alors au début, Mehdi Tayoubi, on parlait d'une anomalie au-dessus de la Grande Galerie. Pendant longtemps, il n'était pas certain qu'il y avait là une cavité. Il a fallu réorienter les détecteurs.
Alors effectivement, au début, en fait, quand le principe de la muographie, c'est de récupérer en fait ces traces de muons et de les accumuler dans le temps pour avoir le plus de statistiques possible, jusqu'à arriver à un taux de certitude qui nous permet d'affirmer que ce que l'on observe est réellement une découverte et que c'est réellement un vide. Donc au début, on observe des anomalies. On demande en fait à l'université de Nagoya en fait de multiplier en fait les prises de mesure et les angles de vue dans la chambre de la reine. Mmh. On demande ensuite au KEK, avec une autre technique de myographie, de venir confirmer une des mesures de Nagoya en se positionnant donc à un endroit où Nagoya avait été placé précédemment. Et puis ensuite, quand on acquiert la conviction que le vide est bel et bien là, que les équipes valident ce qu'on appelle un taux de certitude de 5 sigma que le vide est là, on demande à Sébastien et ses équipes de se positionner de l'extérieur, le vide étant énorme, aussi énorme que la Grande Galerie, on se dit qu'on doit pouvoir aussi le valider depuis l'extérieur.
Et donc les trois équipes qui travaillaient séparément ont pu comparer leurs résultats.
En mettant en évidence cette anomalie, on voit apparaître cette forme allongée. C'est-à-dire qu'en observant vers le haut depuis ces deux endroits, nous avons trouvé une énorme cavité qui s'allonge dans la même direction que la Grande Galerie. Ça, c'est la preuve que nous avons trouvé une grande cavité au-dessus de la Grande Galerie.
C'est en déplaçant le scintillateur sur la seconde position que nous avons pu trouver cette nouvelle structure, ce qui confirme les résultats de Nagoya.
Alors il faut enlever l'anomalie, il faut mettre cavité maintenant.
Les chercheurs donc de la mission Scan Pyramide, toujours dans le doc Khéops Mystérieuse Découverte, diffusé sur France 5. Il n'y a plus de doute aujourd'hui, hein, tous les résultats convergent. Il existe cette gigantesque cavité. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette cavité, Mehdi Tayoubi?
Alors effectivement, il n'y a plus de doute sur la présence d'un grand vide au-dessus de la Grande Galerie, à l'aplomb. Donc on sait qu'il est à l'aplomb. On sait qu'il mesure au minimum 30 mètres de long. On sait qu'il a des caractéristiques similaires, de taille similaire à peu près à la Grande Galerie. C'est pour ça que pour donner une image, on va dire, pour le grand public, on a comparé ça à la taille d'un avion, un avion de ligne, un A321, pour que les gens se représentent à peu près ce que représente,
c'est gigantesque,
ce que pourrait représenter en fait le volume de vide. En revanche, on ne sait pas s'il est incliné ou horizontal, on ne sait pas s'il est constitué d'une ou plusieurs structures. Ouais. Alors ça pourrait être, par exemple, s'il était incliné, par exemple, une seconde grande galerie, ça peut être une succession aussi de chambres horizontales. Alors c'est vrai que le grand public aurait envie, j'imagine, que ce soit des chambres secrètes, etc. Ce qu'on sait, que c'est un vide, et c'est pour ça qu'on l'a tout simplement baptisé le Scan Pyramids Big Void, en attendant d'en savoir plus, comme on l'a fait pour le couloir qu'on a découvert sur la face nord.
Alors vous allez nous dire, dans la fin de cette émission, quelles hypothèses on peut faire quand même sur ce que pourrait contenir ces espaces découverts, et puis les prochaines investigations envisagées pour en savoir plus. Mais avant, un petit détour par les chauves-souris. Oui, il y en a dans les pyramides, paraît-il. C'est le moment de découvrir un nouveau rendez-vous du temps d'un bivouac proposé par Hugo Struna. Bonjour Hugo.
Bonjour Daniel.
Alors vous êtes journaliste à Vigie Nature, le programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, dont nous sommes partenaires. Et toutes les semaines, vous nous plongerez dans la nature sonore qu'étudient les scientifiques du muséum. Paradoxalement, on commence aujourd'hui avec une promenade dans l'inaudible.
Alors vous devez vous dire, là Daniel, quel drôle d'oiseau peut entonner un tel chant. Eh bien sachez que ce n'est pas un rossignol, ni même un oiseau, c'est une chauve-souris, figurez-vous, la Noctule commune, une espèce assez fréquente chez nous qui niche dans les bois et les parcs un peu partout en Europe. Mais attention, ce doux chant, on ne l'entend pas tel quel, nous, dans la nature. Ce qu'on entend, c'est plutôt ça.
C'est beaucoup moins agréable.
C'est très strident. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de nos auditeurs. Je le concède, ça fait presque mal aux oreilles. Surtout que c'est le mâle noctule qui pousse ce petit cri en automne pour attirer les femelles. Celui-ci a été enregistré il y a quelques années par Jean-François Julien, chauve-souricien ou chiroptérologue, c'est plus chic, au Muséum d'Histoire Naturelle. C'était au cours d'une mission en Roumanie, juste derrière un supermarché où poussaient quelques saules pleureurs.
Alors comment on a pu passer de ce cri très court et assez strident enregistré sur place au chant que vous nous avez fait entendre au début?
En fait, les chauves-souris émettent des fréquences très élevées, c'est-à-dire des sons extrêmement rapides, à tel point que la plupart se situent dans les ultrasons, inaudibles évidemment pour les humains. Mais si on ralentit le cri de la noctule 10 fois, on obtient cette belle mélodie.
Mais les femelles noctules n'entendent pas ça comme ça.
Eh bien, comme les chauves-souris ont un cerveau bien plus rapide que le nôtre dans le traitement et l'analyse des sons, on peut imaginer que les femelles rôdant autour du supermarché roumain devaient percevoir quelque chose d'agréable à leurs oreilles, un peu comme ce qu'on entend là, nous. Ça vaut bien un rossignol, non?
Oui, alors, à part les chants de séduction, il existe d'autres types de cris?
Certains permettent de défendre des territoires ou d'alerter un danger, par exemple. Mais la plupart du temps, ces petits mammifères émettent des ultrasons très particuliers pour se déplacer et s'orienter. Ce qu'on entend là, après ralentissement du son comme tout à l'heure, c'est une pipistrelle commune, une toute petite chauve-souris que Jean-François Julien enregistre régulièrement. Là, on est dans la forêt de Rambouillet, il est à peu près 1h du matin. Et un peu à la manière d'un sonar de sous-marin, vous voyez, la pipistrelle envoie des ultrasons réguliers qui vont rebondir sur les obstacles et revenir vers elle. Elle peut ainsi se repérer, éviter les troncs d'arbres, mais pas seulement.
Là, ça s'accélère.
Oui, on vient d'assister là à une véritable scène de chasse. Plus la chauve-souris s'approche de sa proie, plus elle augmente la fréquence des signaux pour améliorer la précision de son sonar et parvient à la fin à atteindre ce pauvre insecte.
Alors là, changement de décor.
Oui, là on est en pleine Afrique équatoriale, en République démocratique du Congo, sur une petite île du fleuve Congo. Jean-François Julien était très fier de me faire écouter cet enregistrement, car il s'agit d'une espèce très rare, une chauve-souris panda, toute blanche et toute noire évidemment.
Oui, vous pouvez voir la photo de la chauve-souris panda sur le site franceinter.fr ou sur notre page Facebook. Elle a vraiment le pelage d'un panda, c'est très mignon.
C'est mignon. Hein.
Alors chaque espèce a un cri qui lui est propre.
Oui, chaque espèce émet une fréquence particulière. Vous vous souvenez de la pipistrelle qu'on vient d'entendre avec ses deux notes très courtes, tilit, tilit, tilit. Je vous présente maintenant le petit rhinolof.
On dirait une fraise de dentiste, le rhinolof.
C'est ça, un son très typique, assez métallique. En plus, les cris sont longs et continus. C'est très, très différent de ce qu'on avait auparavant.
Cette chauve-souris a fait d'ailleurs son grand retour dans la capitale, paraît-il.
Alors, le signal qu'on vient d'entendre a été enregistré dans le bois de Vincennes l'été dernier, alors que les petits rhinolophes avaient carrément disparu de la capitale depuis au moins 50 ans. Une très, très bonne nouvelle, donc, pour la biodiversité.
Ouais, alors, merci Hugo pour cette balade dans l'inaudible, mais rien sur les chauves-souris des pyramides, finalement.
Alors. Si, alors, Jean-François Julien m'a confessé quelque chose. Un des genres les plus répandus d'Afrique, le Taphosus, on dit taphien en français, signifie animal des tombes en grec. Tiens. Elle a été baptisée ainsi par le célèbre naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire parce qu'il était abondant dans les galeries des pyramides au moment de la campagne napoléonienne.
Merci Hugo et à la semaine prochaine pour de nouveaux enregistrements. Mehdi Tayoubi, je crois qu'il n'y a plus de pyramide dans la pyramide de chauve-souris dans la pyramide de Khéops aujourd'hui.
Alors, nous n'avons jamais croisé de chauve-souris dans la pyramide de Khéops. En revanche, les équipes japonaises ont eu affaire à pas mal de chauves-souris dans la pyramide rhomboïdale.
Ouais. Vous aussi, vous confirmez, Sébastien Procureur, pas l'ombre d'une chauve-souris?
Pas de chauve-souris, par contre, on a vu des petites crottes au sol de la chambre de la reine. Donc, ouais. Je ne sais pas de quel animal il s'agit.
Si tous ces animaux pouvaient parler, peut-être que eux, ils les ont vus, ces chambres secrètes que vous cherchez dans la pyramide de Khéops. Est-ce qu'on pourrait envisager le sonar, l'ultrason, pour sonder cette pyramide ou c'est une idée idiote?
Alors, il y a des techniques en fait acoustiques qui permettraient en fait, au même titre que l'infrarouge, peut-être de détecter certains points d'intérêt. En revanche, de là, en fait. On va détecter des anomalies. Le problème d'une anomalie, c'est comment arriver à expliquer ce qu'est cette anomalie. C'est la même chose pour le radar pénétrant. On va détecter, en fait, à un moment donné, une anomalie quelque part. En revanche, les interprétations sont tellement nombreuses qu'on a besoin ensuite de techniques d'observation directe, comme l'est la myographie.
Allez, suite et fin dans un instant de notre expédition à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Vous allez nous donner les prochaines étapes de cette grande aventure et répondre aux questions des auditeurs.
Arrête de me casser les pyramides.
C'est toi, arrête de me casser les pyramides.
Monsieur président, ou intelligent, faut expliquer-moi ça qui a passé où. Monsieur président, c'est qu'à gouverner, faut expliquer-moi qui est en mon cas. C'est chanté couille, mais moi côté bas, moi faire la confiance. Faut expliquer moi, ça va peut faire bon moi. Moi la cagoumé, goumé, 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 goumé. Lité, lité, lité.
Monsieur le Président, c'était Del Grease sur France Inter.
L'astronome écossais Piazzi Smith avait essayé de démontrer que les mesures internes de la Grande Pyramide renfermaient un langage prophétique pour notre époque moderne. Il vint consacrer un hiver entier à mesurer la pyramide, apportant avec lui des théories toutes faites et des dessins que les mesures devaient confirmer. Les théories de Piazzi Smith sont depuis longtemps abandonnées, depuis que l'on s'est aperçu que la plupart de ces mesures étaient fausses, et surtout depuis qu'un continuateur de Smith fut surpris dans la chambre royale, essayant de limer une saillie qui empêchait ses théories de concorder avec les dimensions réelles. La Grande Pyramide possède certainement un secret, mais lequel, sans doute, les initiés de l'époque ont-ils voulu y matérialiser la somme de leurs connaissances, mais de nombreux siècles se passeront encore, certainement, avant que la lumière soit faite sur ce sujet, ainsi que sur la date exacte de la construction de cet édifice.
Raymond Marcillac, en 1949, dans Enquête sur les mystères de la pyramide, sur la RTF. Alors, par le passé, il y a eu des théories un peu hasardeuses sur les pyramides. La découverte réalisée par la mission Scan Pyramide semble beaucoup plus probante, Mehdi Tayoubi. On l'a vu, c'est avéré, plusieurs scientifiques sont arrivés à cette même conclusion. Il existe une grande cavité au sein de la pyramide de Khéops.
Absolument, il existe donc, ce Big Void existe bel et bien au-dessus de la Grande Galerie, au sein de la pyramide de Khéops. Effectivement, des théories sur la construction des pyramides, des théories farfelues, il y en a une qui émerge, j'ai envie de dire, quasiment tous les mois sur Internet. Là, on n'est pas dans le domaine de la théorie, on est dans le domaine de l'observation scientifique et une des choses qu'on s'est imposée, c'est d'utiliser les standards, en fait, des découvertes en physique des particules, d'où la nécessité d'accumuler un maximum de données.
Alors évidemment, vous éveillez la curiosité de nos auditeurs. Bérangère vous demande, que peut-on espérer
trouver dans ce grand vide. Alors je sais que vous n'êtes pas devin, que vous n'êtes pas égyptologue, mais vous avez bien quelques hypothèses à nous donner quand même, Mehdi Taïoubi.
Alors par rapport au point d'observation, c'est-à-dire qu'on observe ce Big Void a été observé depuis essentiellement la chambre de la reine et depuis l'extérieur, on a simulé quelques hypothèses architecturales et aujourd'hui elles sont nombreuses. Ça pourrait être une seconde grande galerie, ça pourrait être trois chambres successives en pente, trois chambres successives alignées les unes derrière les autres. Ce que l'on sait, c'est que c'est un vide. On ne peut pas dire ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Ouais. Nous, les muons nous permettent de valider la présence d'un vide. Donc l'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on lance de nouvelles mesures au sein de la pyramide, c'est d'observer en fait ce Big Void sous d'autres angles pour pouvoir faire une reconstruction 3D et donner plus d'informations architecturales. Donc on se contente de dire que c'est un grand vide.
Bon, alors comme voilà. Vous n'osez pas trop y aller, moi je vais essayer de titiller plus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la dépouille du pharaon, la momie du pharaon Khéops, y soit que une salle de trésors gigantesques, on n'a rien sur ce pharaon, peut-être que tout est encore caché au sein de la pyramide, on ne peut pas l'exclure.
Tout ce qui est, c'est génial, c'est qu'on peut encore tout imaginer. Voilà. Simplement aujourd'hui, voilà, on attend les données scientifiques, les données du terrain.
Vous êtes plus que scientifique, vous êtes un véritable homme politique, c'est de la langue de bois. En tout cas, vous avez raison, il faut rester prudent. Martin vous demande sur la page Facebook, la prochaine étape n'est-elle pas d'aller rentrer dans cette pièce?
Alors la prochaine étape, effectivement on travaille avec l'INRIA et le CNRS à la conception de ce qu'on appelle des moyens minimalement invasifs, c'est-à-dire des petits robots capables de mener des explorations via des petites routes. Si exploration il y avait, elle devrait peut-être démarrer plutôt par la face nord, là où on a le début de couloir. On ne sait pas aujourd'hui si ce couloir qu'on a trouvé derrière la face nord est connecté au Big Void. Le Big Void aujourd'hui nous semble difficilement accessible. En revanche, ce que l'on n'a pas fait et ce que l'on a démarré depuis quelques mois et notamment avec Sébastien, c'est d'utiliser en fait les appareils de myographie à d'autres endroits, notamment dans la grande galerie, et observer pour pouvoir effectivement lui donner en fait une interprétation architecturale. Donc techniquement, explorer, pourquoi pas à partir du couloir. Peut-être qu'on découvrira que les deux découvertes sont connectées. Voilà. Mais l'essentiel est de continuer aujourd'hui sur le non-destructif et le non-invasif.
Et d'ailleurs, vous continuez, hein, Sébastien Procureur, sur le non-destructif, parce que il y a encore deux jours, vous y étiez au pied de ces pyramides. Oui, hier. Alors, qu'est-ce que vous y faites encore aujourd'hui?
On est reparti avec toute l'équipe du CEA, donc avec six personnes, pour réinstaller des télescopes de nouvelle génération à l'intérieur de la pyramide cette fois. Donc jusqu'à maintenant, on s'était mis à l'extérieur. Et c'est vrai que la meilleure zone d'observation de ce Big Void, c'est clairement l'intérieur. Et pour être le plus près possible, en fait, il faut être dans la grande galerie. Donc on a installé deux grands télescopes dans la partie basse et dans la partie haute de la grande galerie pour avoir une meilleure image de ce Big Void, pour essayer de déterminer ses dimensions, sa forme. Et comme Mehdi l'a dit, aussi de déterminer s'il est connecté au couloir qui a été détecté sur la face nord.
Rapidement, Henri vous demande sur Internet, y a-t-il eu des découvertes dans les autres pyramides du plateau de Gizeh?
Alors, par la mission Scan Pyramides, en fait, nous n'avons pour l'instant fait uniquement la pyramide rhomboïdale et la pyramide de Khéops. Et on espère bien pouvoir analyser la pyramide de Khéphren pour rendre hommage ne serait-ce qu'à Alvarez, qui avait été le premier à imaginer ça, et puis la pyramide rouge.
Oui, donc, il y a encore peut-être des découvertes à venir. Faudra revenir nous en parler dans le temps d'un bivouac, c'est prometteur. Je vous présente notre invité de la deuxième heure. Bonjour, François Gabart.
Bonjour.
Skipper à qui tout semble réussir en ce moment, très heureux de vous accueillir. Vous auriez pu être égyptologue, vous?
J'en sais rien, je sais pas, je crois pas.
Vous n'avez pas cette passion-là. Alors, vous étiez peut-être passé à côté de l'info de la découverte de cette grande cavité dans la pyramide de Khéops, car elle a été annoncée le 2 novembre dans la revue Nature, soit deux jours avant votre grand départ pour le tour du monde, où vous avez battu le record. Vous allez nous emmener avec vous sur les mers du globe et plus particulièrement nous raconter ce record. On est très heureux de vous recevoir dans le temps d'un bivouac. Merci à vous, messieurs, pour cette mission Scan Pyramide, Mehdi Taïoubi et Sébastien Procureur. C'était un plaisir de partir explorer l'époque des pharaons avec vous.
Merci.
Arrête à l'abordage, papa. Souquez les Artémuses.
Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquez les Artémuses.
Ah, c'est ça, je me disais aussi.